Ce soir, à propos d'enlèvement, un premier texte en Jean chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1er. Souvent la question nous est posée, le Christ a-t-il parlé d'enlèvement ? Certainement. Ah, il est là. De temps en temps, j'aurai recours au verre d'eau parce que j'entre dans ma 6e campagne depuis que je suis ici, il y a 3 semaines. Et je n'ai pas terminé, je dois retourner à Québec pour une dernière campagne avant de rentrer à Paris, non pas ce dimanche, mais l'autre. Alors le Christ a parlé d'enlèvement en Jean chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1er. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Voilà l'enlèvement. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis nous lisons un autre texte en Luc 17. Je sais que certains interprètent différemment les choses, alors je dois dire d'entrée de jeu que je suis très respectueux des autres thèses pouvant, des thèses eschatologiques et prophétiques pouvant, disons, exister parmi le monde évangélique. Mais pour ce qui me concerne, il ne fait absolument aucun doute qu'il s'agisse de l'enlèvement. Je dirai tout à l'heure pourquoi. 17:26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendez, plantez, bâtissez. Il ne se mariait plus. Le mot « marier » n'est pas dans le texte. On se mariait encore du temps de Noé. On ne se mariait plus du temps de Sodome. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà donc le contexte dans lequel le Christ ensuite dites encore ce qui suit. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière, souvenez-vous de la femme de Lot, etc. Puis, au verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Et Matthieu, et oui, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, c'est ce que rapporte aussi Matthieu 24. Et puis cet autre texte très important de 1 Thessaloniciens 4, 16, que nous lisons. Nous pourrions lire à partir du verset 13e. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oh, que Dieu bénisse sa parole pour chacun d'entre nous ce soir dans ce lieu. Et que toute la gloire lui en revienne. Pour comprendre l'enlèvement, il faut en venir au mariage juif tel qu'il se pratiquait du temps du Seigneur. Et comment se pratiquait-il le mariage juif ? Quand un jeune homme était désireux de se marier, que faisait-il ? Eh bien, il quittait la maison paternelle pour aller se chercher une épouse, une fiancée, quelque part. Et une fois celle-ci trouvée, il en payait le prix à son futur beau-père pour la retenir fermement. Ainsi était la coutume parmi les Juifs anciennement. Et après l'avoir retenue fermement, cette fiancée était déjà considérée comme son épouse. Elle ne pouvait pas, à la limite, même rompre, c'était déjà fait. Et il pouvait même l'appeler son épouse. Voilà pourquoi, au jour de la nativité, l'ange qui avait été envoyé vers Joseph, qui n'était que fiancé à Marie, pas marié, fiancé, n'avait cessé de dire à Joseph, prends ta femme. Vous avez remarqué cela ? Prends ta femme, alors qu'il n'était que fiancé. Parce que les fiançailles étaient tout autre chose que ce qu'elles sont de nos jours. Ensuite, après l'avoir fermement retenu, il réintégrait la maison de son père et là, il demandait à son père un endroit sur la propriété paternelle pour commencer de bâtir une demeure afin que cette demeure puisse le recevoir avec son épouse à partir de leur union. Et il bâtissait cette demeure en ayant bien entendu à l'esprit le jour où il pourrait enfin aller chercher sa promise pour s'unir à elle dans le mariage. Et une fois la demeure prête, alors il pouvait donc envisager le mariage. Il allait lui-même chercher sa fiancée. Il n'envoyait personne d'autre que lui. Il avait bien raison, hein. Franchement, est-ce que vous enverriez quelqu'un d'autre chercher votre fiancée ? Hein, les jeunes gens qui sont ici, pour vous unir à elle, dans ce grand jour du mariage, certainement pas. Alors il allait la chercher lui-même, et puis à partir de là, bien entendu, il y avait des festivités, et il pouvait habiter avec elle, la prendre alors pour épouse, et habiter avec elle dans cette demeure qu'il avait construite sur la propriété paternelle. Et je suis persuadé que c'est Jésus qui inspira ce schéma du mariage aux Juifs, parce que c'est le schéma que lui-même a suivi, mais sur un autre plan, bien entendu, et sur une échelle beaucoup plus grande, un mariage spirituel avec son épouse. La Bible dit que pour le temps présent, l'Église n'est que la fiancée du Seigneur, mais tellement fiancée au Christ qu'elle est déjà appelée son épouse. À partir d'un texte comme celui de 2 Corinthiens 11, 4, l'apôtre Paul a écrit à l'Église de Corinthe, « Je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. Je vous ai fiancé. » Mais de même que le jeune homme juif était considéré déjà comme l'époux. Voilà pourquoi le Christ, bien que non encore uni à sa fiancée, est déjà appelé l'époux. Et son Église est appelée l'épouse, parce que ce contrat de mariage entre lui et son épouse est absolument ferme, et j'allais dire en même temps qu'irrévocable. Il doit donc venir la chercher, son épouse, pour pouvoir alors convoler avec elle en juste noce, en même temps qu'en lune de miel dans son ciel de gloire. Alors, amis, je vous pose une première question. Serez-vous, justement, de ceux et celles qu'il doit venir chercher pour s'unir à eux au plan spirituel afin de pouvoir vivre avec eux dans le ciel une lune de miel spirituelle absolument fantastique? Nous attendons ce grand jour avec impatience. Je disais donc que c'est certainement le Seigneur qui inspira ce schéma du mariage aux Juifs, parce que c'est le schéma que lui-même a suivi. Tout à l'heure, je vous ai donné 2 Corinthiens 11, 2. C'est en fait 11, 4. C'est en fait 2 Corinthiens 11, 2. Et l'enlèvement ne doit pas du tout être confondu avec la mort. Beaucoup de chrétiens pensent que, pour finir l'enlèvement, ben, c'est la mort du chrétien. Quand le chrétien meurt, bon, ben, son âme est enlevée et elle va au ciel. Voilà l'enlèvement. Et beaucoup en sont arrivés là et pense que ça n'ira pas plus loin. Mais c'est une erreur, cela. Il y a réellement une distinction à faire entre la mort, la façon dont meurt le chrétien, et puis l'enlèvement du chrétien. J'ai fait un livre à propos de Luc 16, du riche, du mauvais riche. Je ne vois pas pourquoi mauvais, parce que pas plus mauvais que nous. Et de Lazare. Vous avez eu le grand passage ici, peut-être. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'au Québec, mon deuxième livre. Et je précise que lorsque le chrétien meurt, sitôt le dernier souffle rendu, il est en présence d'êtres célestes. Ce fut le cas de Lazare, qui lui avait été envoyé pour le chercher. Et ensuite, ses anges avaient emporter Lazare avec eux pour l'emmener jusque dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, qui était figurée par Abraham. Abraham faisant dans ses textes figure de Dieu, parce que Abraham étant appelé le père des croyants, n'est-ce pas, mais le vrai père des croyants, c'est le père de notre Seigneur Jésus-Christ, en même temps qu'il apparaît comme cette figure de la foi que tous, j'allais dire, un jour rejoindront s'ils ont sur cette terre marché par la foi, comme Abraham. Alors voilà donc comment les choses se passent quand le chrétien meurt. Sitôt le dernier souffle rendu, il est en présence d'êtres glorieux qui lui sont envoyés pour le chercher. Tandis que là, dans l'enlèvement, il est dit quoi ? Car le Seigneur... Quoi ? Je n'ai pas rien entendu. Ah, ça va mieux. Car le Seigneur lui-même, c'est-à-dire qu'il n'enverra pas le plus grand de ses anges, pas même Michaël, hein. Il descendra lui-même chercher son épouse et il aura bien raison, hein. Parce que nous-mêmes, on n'enverrait pas quelqu'un d'autre. C'est toute la différence. Pendant longtemps, j'ai habité tout près d'un aéroport parisien, l'aéroport d'Orly. Et très souvent, en descendant d'Orly à Paris, nous allions rejoindre l'autoroute Orly-Paris, Paris-Orly, pour aller plus vite. Mais parfois, cette autoroute, Orly, l'aéroport donc, Paris, nous était interdite. Pourquoi ? Parce que des personnalités arrivaient à cet aéroport, et parce que des personnalités de tous les univers, et en particulier des personnalités du monde politique arrivaient, on nous empêchait d'aller sur cette autoroute. Nous étions déviés vers des routes, vers d'autres voies de déviation, mais à partir desquelles on pouvait voir ce qui se passait sur l'autoroute Orly-Paris. Et généralement, c'était quoi ? Il s'agissait d'un balai de déesses, des Citroën donc, hein ? Alors qui n'existe plus maintenant. Un balai de déesses noires, qui était emporté par des motards, hein, dans leur plus bel apparat, des motards de la gendarmerie française. Alors on regardait ces balais sur l'autoroute, et toutes les fois où j'assistais à ce genre de spectacle, c'est à la façon dont le chrétien décède que je pensais, et surtout à ce qui nous est rapporté de Lazare. Oh, mes amis, sitôt que le chrétien naît de nouveau, sauvé par grâce, racheté par le sang de Christ, décède, sitôt que son âme passe de l'autre côté, il est en présence des motards du ciel, les anges, que Dieu lui envoie pour le chercher. Et ces motards, quand, oui, le chrétien arrive à l'Orly céleste, hein, l'aéroport céleste, quand nous atterrissons là, hein, alors les motards du Seigneur sont là. Il nous les envoie pour que nous soyons justement cherchés, récupérés, et les motards du Seigneur nous emmènent sur l'autoroute de la gloire, jusqu'au palais de l'Élysée céleste. Non pas à la rencontre de François Mitterrand, mais du Seigneur. Hein. Ah, ceci est extraordinaire. La façon dont le chrétien meurt, c'est remarquable. Hein. Voilà pourquoi la Bible dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur ». La Bible dit aussi que elle est précieuse aux yeux de Dieu, la mort de ceux qu'il aime. Si vous avez ce genre de certitude, vous allez peut-être me dire, mais est-ce possible qu'on puisse mourir avec ce genre de certitude si le Seigneur devait tarder et qu'on soit chrétien? Mais certainement. Il y a peut-être ici parmi nous, ce soir, quelqu'un qui n'a aucune certitude quant à son salut éternel. Oh, quand on manque de certitude, c'est que on a ignoré sûrement que notre salut, c'est Christ qui l'a fait. Notre salut, c'est Christ qui l'a payé sur la croix du calvaire. C'est lui qui l'a payé. Notre salut, c'est Christ qui nous l'accorde, qui nous l'offre. C'est gratuit. Quand c'est fait, quand c'est payé, quand il a payé chèrement, hein, de sa vie, de son sang sur la croix, quand c'est offert, que nous reste-t-il à faire? Ah, quand on vous fait un cadeau, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, attendez, je vais le payer, non? Non. Vous le prenez dans la confiance, dans la joie, et vous dites quoi? Merci. C'est tout aussi simple que cela. Alors, mon ami, je répète, ton salut, hein, c'est Christ qui l'a fait. Alors n'essaye pas de le faire. Ton salut, c'est Christ qui l'a payé. Alors n'essaie pas de le payer par tes œuvres. Ton salut, c'est Christ qui te l'offre. Parce qu'il l'a fait, il l'a payé, c'est gratuit. Il te faut te repentir de tes péchés. Lui demander pardon. Et puis, le recevoir dans la confiance et dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Personne ne t'aime autant que le Seigneur. C'était une digression, nous revenons à notre sujet. Il est important. Le Christ a-t-il parlé d'enlèvement? Bien entendu. En Jean 14, nous l'avons lu, mais aussi en Marc 24, 40, et puis en Luc 17, 34. À partir de ces mots, de deux hommes ensemble, de deux femmes ensemble, de deux personnes dans le même lit. Alors certains voient là plutôt un jugement à l'adresse des Juifs, et à propos de ceux qui seront pris, ils seront pris pour le jugement. Et permettez que je dise que je ne vois pas les choses de cette façon-là, mais je respecte une autre opinion. Hein. Nous ne devons absolument pas nous heurter à propos de ce genre de choses. Mais Jésus a parlé de cela après avoir évoqué Noé, évoqué Lot. Et c'est après cela qu'il a parlé d'hommes, de femmes qui seront pris et d'autres laissés. Or, Noé et Lot n'ont pas été pris pour être jugés, mais pour être sauvés. Voilà dans quel contexte le Christ a enseigné ces choses. Et Noé a été sauvé comme par un enlèvement. Entre dans l'arche. Et une fois Noé dans l'arche, les jugements ont atteint sa génération. Pour ce qui a été de Lot. Ah, Lot avait été un homme très hésitant, là. Il avait traîné les pieds, comme on dit en France, hein. pour quitter Sodome. Et il avait fallu, en Genèse 19, que des anges les poussaient hors de la ville en lui ayant dit, n'est-ce pas, « Nous ne pouvons rien faire tant que tu es là. Il faut que tu sortes de Sodome. » Alors il l'avait littéralement poussé hors de la ville et Lot avait été sauvé comme par un enlèvement. Et sitôt Lot sortit de la ville, une pluie de feu, de soufre s'était abattue. Le jugement n'avait pas été sur Lot, mais il avait été sur ceux qui étaient restés. Le jugement n'avait pas été sur Noé, mais il était tombé sur ceux qui étaient restés, qui n'étaient pas entrés dans l'arche. Voilà pourquoi je vois les choses de cette façon-là. L'un sera pris et l'autre laissé. Et qui plus est, le Seigneur, dans les textes, surtout de Luc, nous a fait savoir que pour certains, cet enlèvement aura lieu de nuit, et pour d'autres, de jour, ayant tenu compte des fuseaux horaires, des décalages horaires. De deux personnes dans le même lit. Alors, en cette nuit-là, il a précisé, hein, en Luc 17, 34, en cette nuit-là, de deux personnes dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Oh, mes amis, là, ce sera peut-être au niveau de votre couple. De deux hommes dans un même champ, ça c'est deux jours, hein, en ce temps-là, on n'avait pas ces moissonneuses batteuses qui pouvaient travailler de nuit. En ce jour-là, en quelque sorte, de deux hommes dans un même champ, de deux femmes à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. L'un sera pris, l'autre laissé. Il a donc tenu compte du décalage horaire. Il se peut que, dans ce jour-là, nous ayons, nous, cet événement de nuit, et vous, ici, de jour. Quand j'appelle ma femme depuis ici, souvent c'est la nuit chez elle, et puis c'est le jour ici. Et le Christ a parlé abondamment de son retour, en même temps que, oui, des signes des temps, à partir d'expressions comme les suivantes, « Je reviendrai quand le Fils de l'homme viendra à mon jour », des chapitres entiers. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire hier soir, ont été consacrés par le Christ lui-même, au dernier temps, en même temps qu'à son retour. Oui, Matthieu 24, tout le chapitre, Matthieu 25, Marc 13, par exemple, Luc 17, Luc 21, et ce, sans compter toutes les autres fois où le Seigneur a parlé de son retour, en dehors de ces chapitres. Mais nous en arrivons maintenant tout naturellement à l'enlèvement. Le mot enlèvement, en fait, n'est pas tout à fait exact quand il est considéré à partir de 1 Thessaloniciens 4:16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants qui serons restés sur cette terre, nous serons tous enlevés. Voilà, enlevés. Mais ce terme-là n'est pas tout à fait le terme grec. Et ceci fait problème pour certains, mais nous allons expliquer ces choses. Simplement que bien des langues, et en particulier le français, n'ont pas la traduction littérale du mot grec « arpazo », lequel signifie beaucoup plus qu'enlever. Il signifie « arracher ». Il signifie « s'emparer avec force, brusquement ». Il signifie « saisir ». À la limite, mon dictionnaire grec dit « « emmener de force ». Oui, je crois que le Seigneur n'aura pas besoin de nous emmener de force. Hein. Ça, c'est toute la différence, mais ce mot pouvait être employé dans ce but. « Emmener de force ». Non, on ne partira pas « emmener de force ». Et ce terme « arpazo » était souvent employé pour parler de vol à l'arraché. Alors, que se passe-t-il à Paris très souvent ? Une sœur de notre église, en sortant un jour, marchait avec son sac au bras, quand un jeune homme avec son vélomoteur était allé vers elle, comme cela, pour lui arracher son sac et partir. Voilà, dans ce cas particulier, on aurait pu employer, si nous étions des Grecs, le mot « arpazo », ce verbe « arpazo ». Les Anglais ont un mot pour cela, le mot « rapté ». Mais ça n'est pas du tout un mot français. Encore qu'en français, nous pouvons parler de « rapt », un anglicisme. Et les Anglais ont le mot « rapture », excusez mon accent. Le mot « rapture », je n'ose pas prononcer les mots anglais, vous savez. Toute la différence entre vous et nous, c'est que nous, en France, on n'entend jamais l'anglais. Nous n'avons pas de télévision en anglais, ni de radio en anglais, de telle manière que quand on sort un mot anglais, ça arrache les oreilles des Anglais. Et aussi les oreilles des Québécois. Hein. Alors, les Anglais ont ce mot, et c'est tout à fait ça. Il y aurait un mot en français qui conviendrait, c'est le mot « ravir ». D'ailleurs, il est employé en 2 Corinthiens 12, 2, quand l'apôtre dit « Je connais un homme en Christ qui a été ravi ». Voilà un bon mot. Mais le mot « ravi » peut revêtir d'autres sens en français. Voilà pourquoi il n'est pas employé de façon définitive. Il peut signifier tout autre chose qu'être enlevé. Mais revenons à cette idée. Le mot grec rendu par « enlevé », arpazo, était employé pour parler de vol à l'arraché. Et il concernait souvent, surtout, le voleur et le verbe « voler ». Eh bien, nous y voilà. Parce que Jésus lui-même a dit, en Apocalypse 3:3, « Voici, je viendrai comme un voleur. » Ah, mais tout à fait, hein. Ceci rejoint tout à fait le mot arpazo en 1 Thessalonicien 4:16. Et ce texte, « Je viendrai comme un voleur », le Seigneur l'a dit au moins deux fois au livre de l'Apocalypse. Il l'a dit en Apocalypse 3:3, il l'a dit en Apocalypse 16:15, « Voici, je viendrai comme un voleur. » Et il l'a surtout dit en Matthieu 24, 43. Prenons ce texte ensemble. Matthieu 24, 43. Une des paraboles du retour de Christ enseignée par lui-même à propos de l'enlèvement. Voici ce qu'il dit. « Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille ou à quelle heure de la nuit, le voleur doit venir. Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Et puis aussitôt après, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, comme le voleur, hein, à l'heure où vous n'y penserez pas. » Longtemps j'ai achoppé sur cette parabole. Ça veut dire quoi ? Longtemps je me suis demandé qui était le voleur dans cette parabole. Qui était la maison ? Que représentait la maison ? Qui était le maître de la maison, etc. Longtemps, je ne comprenais pas. Et puis, à la lumière de ce que nous venons de dire, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Hein, le voleur, c'est lui, c'est clair dans cette parabole. Parce que le voleur, quand il vient, il n'envoie pas un fax pour vous dire à quelle heure il va venir, ou il n'envoie pas un coup de téléphone. Voilà, j'arrive à 2h du matin, tenez-vous prêts, etc. Non, il vient de façon furtive, de façon soudaine, de façon inattendue. C'est comme cela que le Seigneur doit venir chercher son Église. Et voilà pourquoi dans cette parabole, nous n'en verrons que deux ce soir, parce que je ne voudrais pas vous garder 4 heures. Hier, les amis voulaient qu'on reste 4 heures, mais ça fait trop tard quand même. Et ce serait quand même difficile pour tous. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé, justement, a usé de ce terme, parce que dans cette parabole, c'est lui le voleur. Comme le voleur vient de façon soudaine, lui viendra de façon soudaine. Comme le voleur vient de façon furtive, lui viendra de façon furtive. Et il surprendra le maître de la maison. Alors, qui est-il ? La maison, bien entendu, ça n'est pas ce que le Seigneur viendra voler. Il n'est pas dit qu'il viendra voler la maison. Non, il viendra pour voler, pour percer la maison. Prendre dans cette maison ce qui est à lui, ce qui lui est précieux. Oui, le divin voleur, j'allais dire. Il est curieux que le Seigneur se soit comparé à un voleur lui-même. Hein? Apocalypse 3:3, etc. Il ne vient pas voler la maison, il vient voler ce qu'il a de précieux dans la maison. C'est quoi ? C'est précisément l'Église qui est dans la maison, mais qui n'est pas de la maison. Hein? Et qui l'attend. Est-ce que l'Église l'attend ? Est-ce que vous attendez le Seigneur ? Ah oui, puissions-nous l'attendre. Il vient bientôt. Alors, si la maison, c'est ce monde, le maître de la maison, c'est qui ? Ah, celui que Jésus a appelé le prince de ce monde, celui que l'apôtre Paul a nommé le Dieu de ce siècle. Mais qu'est-ce que Jésus, en fait, a voulu nous enseigner par cette parabole de Matthieu 24 sur le voleur et sur la maison. Écoutez bien cela. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Ça veut dire quoi ? Et textuellement, ce qui suit. Si Satan, le maître de la maison, le dieu de cette maison, savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Il ne laisserait pas percer sa maison. Là encore, c'est clair comme de l'eau de roche. Le Seigneur n'a pas voulu que le diable sache l'heure de son retour, le jour de son retour. Et c'est peut-être pourquoi il ne nous l'a pas dit à nous. Parce que s'il nous avait donné une date, nous sommes tellement bavards qu'il y a belle lurette que le diable l'aurait apprise. Hein. Si le maître de la maison savait, Jésus n'a pas voulu qu'il sache. Il va venir en le surprenant. Et il surprendra aussi le monde, et il surprendra aussi l'Église. Nous n'avons pas de date, mais tout à l'heure je vais vous en donner une. Non, ne partez pas. Vous en avez qui veulent partir. Hein. Ne partez pas, mais je vous donnerai une date. Mais une date prophétique, bien entendu. Hein. Pas une date de notre calendrier. Oui, il est tout à fait clair que Jésus a parlé de deux temps dans un seul retour. En Matthieu 24, en Luc 21, il a parlé de venir comme un voleur, de façon furtive et invisible aux autres. Le voleur, quand il vient, il est souvent invisible. Mais à quoi reconnaissons-nous qu'il est passé ? Et quand alors bien des choses nous manquent, hein ? Oui, il vient de façon furtive, comme je le disais tout à l'heure. Mais s'il est vrai que le diable, plutôt que le voleur, ne vient pas comme cela, avec tambour et bruit infernal, le Seigneur, dans un premier temps, ne viendra pas, j'allais dire, dans toute sa gloire, c'est tout à fait clair. Dans un premier temps, pour les siens, il viendra comme un voleur. Et puis, dans d'autres textes de Matthieu 24, de Luc 21, alors il est parlé de ce retour en gloire, de ce Fils de l'homme qui vient donc dans toute sa gloire, dans un éclair allant de l'Orient à l'Occident, etc. Il est tout à fait clair qu'il s'agit d'un deuxième temps dans ce même retour, parce qu'il n'y a qu'un seul retour, pas 36. Et nous verrons que demain, justement, entre ces deux temps, les deux temps de son retour, il y aura sur la terre ce que la Bible appelle la grande tribulation, faite de deux périodes, une période assez spectaculaire avec l'Antéchrist, apportant au monde des réponses absolument mirobolantes en même temps qu'époustouflantes, puis une deuxième partie de 3 années et demie, elle aussi, sur une période de 7 ans, de 3 années et demie, alors qui représentera non seulement la tribulation de Jacob, mais encore des temps d'angoisse pour la terre comme elle n'en a jamais connu depuis le commencement. Mais beaucoup aussi disent, il est difficile d'accepter quand même l'enlèvement. Vous croyez, Alain Chouaquier, je l'entends de temps en temps, vous croyez, Alain Chouaquier, que les chrétiens vont partir comme cela dans le ciel, comme des ballons de fête foraine parce que gonflé d'un gaz plus léger que l'air. Vous savez, c'est quand j'étais petit, moi, on lâchait le ballon, il partait, on pleurait, hein, en le regardant partir. Parce que gonflé d'un gaz... Mais vous savez que nous, j'allais dire, nous sommes gonflés du Saint-Esprit. Hein. Oui. Et la Bible dit que le Seigneur ne viendra prendre que ceux qui, justement, auront reçu son Saint-Esprit. Hein. Est-ce que vous l'avez reçu? La Bible dit que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Alors je ne ferai pas non plus un parallèle entre un gaz plus léger que l'air et le Saint-Esprit, c'est clair. Mais ne partiront que réellement ceux qui auront été sauvés. Que ceux qui sont sauvés, est-ce que vous l'êtes? Vous devez le savoir. Quand ce soir? Et nous terminerons justement avec une telle conclusion à cet égard. Alors, pour encourager ceux qui ont des doutes et qui ont de la peine à croire que, vous savez, quand on pense aux galaxies, vous avez entendu comme moi, sur le petit écran, les dernières découvertes du Big Bang, hein. Du Big Bang, oh, certes, il y en a eu un, moi j'y crois, hein. Mais un Big Bang organisé et contrôlé par Dieu. Et la Bible en parle du Big Bang, la terre était informe et vide. Ça, c'était le résultat du Big Bang. Puis ensuite, le Seigneur a ordonner les choses, il les a parfaitement contrôlées, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, bien entendu, le scientifique pense qu'il s'agit d'un Big Bang tout à fait fortuit, en même temps qu'hasardeux. Non, nous ne pouvons pas le croire. Nous savons que tout a été mené. Dans quel but? La création de l'homme. Parce que lorsque le Seigneur a créé les choses, tel n'est pas mon sujet de ce soir, mais j'ai traité cela à Saint-Georges de Beauce, à la polyvalente. Quand le Seigneur avait créé le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, il avait trouvé bon ce qu'il avait fait. Et une fois l'homme créé, il avait trouvé très bon ce qu'il avait fait. Voilà donc la preuve qu'il visait la création de l'homme à partir de tout ce qu'il créait. Il lui faudra au Seigneur beaucoup moins d'énergie à déployer, hein, pour dire à son Église, monte en haut, à ma rencontre, que pour créer ces milliards de galaxies qui sont autour de nous et qui nous versent dans un vertige cosmique absolument démentiel. Oh, nous ne pourrons jamais atteindre l'amas galactique le plus proche du nôtre, parce que situé à des distances absolument incalculables, et même à des vitesses absolument remarquables, à la vitesse de la lumière par exemple, 300 000 km seconde, il faut des millions d'années pour atteindre l'amas galactique le plus proche du monde, du nôtre, parce que situé à quelques 42 millions de parsecs, le parsec étant la nouvelle dimension, la nouvelle unité de mesure pour le cosmos, et le parsec étant l'équivalent de 3,28 années-lumière. Et qu'est-ce qu'une année-lumière? C'est la distance parcourue par la lumière en une année. À quelle vitesse? Attachez vos ceintures. 300 000 km seconde. À la seconde. À ces vitesses-là, on ne peut pas atteindre les galaxies autour de nous. Ah, ceci nous ramène à nos vraies dimensions, hein. Parce que l'homme a toujours cette tentation de gonfler le torse d'orgueil comme Artaban. Oui, il est orgueilleux. Alors qu'il est une infime poussière. La Bible nous entretient de cet enlèvement. Ceci pour nous encourager à croire dans cet événement qui vient bientôt, nous l'espérons. Genèse 5, 21-24, repris par Hébreux 11, 5, le premier enlevé, qui? Hénoc. Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Et Hébreux 11, 5 précise qu'il a été enlevé. Alors un homme qui a marché par la foi et ne seront enlevés que ceux qui marchent par la foi, précisément. Est-ce que tu marches par la foi, mon ami ? La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. De telle manière qu'il n'y a que deux sortes d'individus sur la surface de la terre. Ceux qui ont la foi et qui, du même coup, sont agréables à Dieu. Et puis ceux qui n'ont pas la foi et qui lui sont désagréables. Dieu voudrait que la foi vienne dans ton cœur ce soir. C'est lui qui la plante. Quand il trouve, justement, dans le cœur de l'homme la repentance, parce que l'homme est pécheur, et la confiance pour son salut. Il y a des facteurs qui déclenchent justement le phénomène miraculeux de la foi dans le cœur de l'homme, laquelle foi transforme le cœur qu'elle vient habiter pour y mettre aussi des certitudes inébranlables. Et puis, 2 Rois 2:11, qui a été enlevé là ? Élie dans un char de feu sous le regard d'Élisée. Deuxième enlèvement, ils ont été enlevés. Nous le croyons. Et puis, ils ont été des figures de la foi, autant Enoch qu'Élie. Puis ensuite, le Seigneur lui-même. Marc 16, 19, Luc 24, 52. Oh, le Seigneur était avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Puis tout à coup, après avoir donné ses derniers souhaits, ses dernières paroles, il partit sous les yeux de ses disciples qui étaient là, restés à regarder en haut. Une nuée, est-il écrit, le déroba à leurs yeux. Et puis l'ange avait dit à ses disciples, il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir. Hein. Allant au ciel, et nous savons qu'il reviendra pour poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, Zacharie 14, de la même façon que vous l'avez vu allant au ciel.